La mort d'un enfant est toujours une terrible catastrophe. Lorsqu'il s'agit d'un meurtre, les mots manquent. C'est peut-être pour cette raison, le manque de mots, que la presse se précipite, que la rumeur se répand, que les foules se massent. On veut voir, on veut savoir, on exige que des têtes tombent. Ce phénomène est à l'origine du fiasco judiciaire français dans la tristement célèbre affaire Grégory, autour de laquelle nous réfléchissons aujourd'hui. Vous écoutez Après coup. Juste en commençant, on va situer l'histoire et puis comment les choses se sont passées le 16 octobre 1984. Donc, ce jour-là, Christine Villemain revient de la garderie avec son petit garçon, Grégory, qui a 4 ans. Elle rentre à la maison, fait un peu de repassage pendant que Grégory joue à l'extérieur. Quand elle ressort, il a disparu. On le retrouve 4 ou 5 heures plus tard, mort, dans la Vologne. À partir de là, l'enquête se déclenche et Paris débarque à la campagne. Donc, la Vologne, c'est dans les Vosges, c'est au nord-ouest de la France. C'est une petite région qui vient, en 1984, à peu près juste d'avoir le téléphone. Donc, Paris débarque là avec ses caméramans, avec ses photographes, avec ses journalistes, avec ses lives, et envahit la petite ville où tout se passe, au point de gâcher les funérailles du petit garçon, de faire déraper l'enquête, et finalement, de provoquer le meurtre d'un des suspects. C'est une histoire que tout le monde connaît, semble-t-il, en France. Moi, j'en avais vaguement entendu parler. J'y avais jamais prêté attention, mais en regardant un documentaire sur Netflix qui a tué le petit Grégory, je suis tombée dans le roman feuilleton qui dure depuis 40 ans presque. On ne sait toujours pas, à ce jour, qui a tué le petit Grégory.
Oui, puis c'est... Tu sais, quand tu écoutes le documentaire Netflix, parce que moi, donc j'étais comme toi, au sens où j'avais vaguement entendu parler, mais très peu. Donc, je découvre en fait l'histoire sur Netflix dans le documentaire. Puis au départ, tu dis, ah ben quand même, c'est pas un documentaire de 50 minutes. Il y a 5 épisodes de 1 heure, je crois, hein, à peu près. Hein. Donc, c'est quand même assez extensif. Mm-hmm. Après 5 heures, on va savoir l'histoire. Mais là, ça ouvre sur tout un monde. Qu'un documentaire en appelle un autre parce qu'il y a d'autres documentaires qui ont été faits. Puis là, ben, les livres qui ont les podcasts, il y a des centaines d'heures, il y a des centaines de documents, les procès-verbaux, des entrevues. Si tu t'y plonges, ça fait 40 ans, c'est toujours pas terminé, alors il y a du matériel infini.
Infini, puis tout le monde s'en est mêlé aussi, c'est-à-dire que tout le monde a son point de vue.
Oui.
Tout le monde a son histoire à raconter.
Oui. Et puis ça, tout le monde a écrit son livre sur l'histoire.
Tout le monde a écrit son livre sur l'histoire et sa participation dans l'histoire. C'est que tu as beaucoup de gens qui n'avaient rien à voir là-dedans.
Ouais.
En particulier des journalistes. Du monde qui n'avait rien à voir là-dedans, qui se sont retrouvés au cœur de l'action, en relation directe et intime avec soit les gendarmes, soit juge d'instruction, soit les parents, qui allait croquer la meilleure photo, qui allait avoir l'histoire la plus juteuse. Ça a complètement dérapé, cette affaire-là, puis ça a provoqué des tragédies en série par la suite. Et non seulement l'enquête a déraillé, mais c'est que dans la vraie vie du monde, ça a vraiment eu des impacts immenses. Ouais. Et c'est sans fin.
Et puis c'est comme ça pour tout. T'sais, plus tu connais quelque chose, plus tu te rends compte que tu en connais peu. Parce que c'est vrai qu'au départ, tu te dis, ah ben là, ça fait 15 heures, 30 heures, 50 heures que je consacre à l'affaire. Je commence à bien la maîtriser. Mais là, tu découvres d'autres choses. Puis tu te dis, ah finalement, c'est dans un sens, je ne fais que parcourir certains contours, puisque j'ai pas lu le livre de Laurence Lacroix, j'ai pas lu tel livre, j'ai pas lu tel livre, j'ai pas lu tel livre. Les livres se multiplient, les entrevues. On n'en finira jamais. Puis en plus, il y a l'idée, et donc c'est un autre exemple de ce que j'ai pas fait, malgré les dizaines et des dizaines d'heures consacrées à l'affaire. Moi, j'ai pas lu, je sais pas si tu l'as lu, mais le livre du commissaire de police, Jacques Corazi.
Non.
Qui prend en charge l'affaire un an après, là, des gendarmes. Donc, je ne l'ai pas lu, mais ça a l'air, comme on dit, il semblerait que son livre est mi-vérité, mi-fiction, si on veut. Là. Mais ça fait que c'est un autre truc. Les gens écrivent sur l'affaire, mais en romançant délibérément ce qui s'est passé. Fait que ça rajoute... ça rajoute de l'info. Que tu dis, OK, mais ça, c'est un message codé ou c'est son impression?
Oui.
Puis il y en a plusieurs qui ont fait ça.
Oui. Bien, le juge d'instruction, Lambert, qui a écrit un livre qui s'appelle « Le petit juge » qui l'a amené jusque chez Bernard Pivot, tellement l'affaire a fait grand bruit pendant des années et des années, écrit un livre aussi sur cette affaire-là, semi-romancé, bourré de ses impressions.
Oui, parce que comme l'affaire est encore ouverte, il ne peut pas trop en parler, mais il en parle un peu. Donc, il y a ça, parce qu'on voulait s'intéresser aujourd'hui, entre autres, à la construction de cette histoire-là, la construction du récit autour de cette affaire, qui est tragique, mais qui finit par prendre plein de petits chemins selon les acteurs impliqués. Et donc, dans la construction du récit, il y a cet aspect-là aussi, que des gens délibérément, parfois, pour différentes raisons, dont peut-être pour se dénoyer un peu de l'horreur, ajoute de la fiction.
Oui.
Très rapidement.
Oui. Des gens, entre autres Marguerite Duras, sur laquelle on pourra revenir, son sublime, forcément sublime Christine V, qui a aussi fait grand bruit, grand scandale, quand elle l'a publié en 1985 dans Libération.
Oui. En fait, on devrait en parler tout de suite.
Parlons-en. Juste, donc, le petit Grégory, plus personne n'en parle. C'est ce que Laurence Lecour remarque pendant une entrevue. C'est-à-dire, est-ce que pendant une entrevue avec Christophe Ondelat, parce qu'évidemment, Christophe Ondelat aussi a écrit son livre.
Oui.
Bon, et a fait une de ses émissions, Faites entrer l'accusé là-dessus. Donc, dans une entrevue avec Christophe Ondelat, c'est Christophe Ondelat qui lui demande, mais finalement, Grégory, est-ce qu'on en a parlé par la suite? Et elle de remarquer, ben non, que finalement, c'est arrivé assez vite, que le petit enfant a été oublié dans l'affaire. C'est devenu rapidement, d'abord, qui a tué. Ensuite, il y avait derrière ça aussi une histoire de corbeau.
Ouais.
Pendant 3 ans, à partir de 1981, qui est l'année où le téléphone a été déployé dans la région, donc à partir de 1981 jusqu'à la mort de Grégory et même après, la famille Villemain, les parents, donc les grands-parents du petit Grégory, les parents du petit Grégory, des frères et même certains voisins, ont été harcelés, d'abord par téléphone, ensuite par courrier, par un corbeau.
Un ou des corbeaux.
Alors, un corbeau, c'est un stalker. Mais on l'appelle le corbeau en référence à un film qui racontait un peu une histoire comme ça, de harcèlement.
Mais je me suis demandé, puis je sais pas la réponse, est-ce que eux réfèrent à cette personne-là qui les harcèle comme le corbeau, ou c'est dans l'après-coup l'intelligentsia de Paris qui a dit « Ah ah, c'est le corbeau », puis qui s'est mis à...
Ben, je sais pas, parce qu'on parle d'un corbeau comme si c'était passé dans le langage, puis le Jean-Marie Villemain, qui est le père de Grégory, dans les toutes premières entrevues, a tout de suite dit « mais c'est le corbeau ».
Ah, OK, d'accord. Donc probablement que c'était... Ben, j'étais pas sûr, mais donc probablement que si Jean-Marie Villemain y a fait référence, c'est que ça faisait partie du langage, parce que j'étais pas sûr... Puis c'était d'autant plus interpellant pour moi que quand on regarde les documentaires, le corbeau prend beaucoup de place, c'est-à-dire que dans les 2 documentaires que j'ai écoutés, ou même dans les 3, on voit des oiseaux partout, on voit des corbeaux partout, des gros plans, puis le corbeau, les gros corbeaux qui s'envolent. Fait qu'à un moment donné, ça devient comme... ça fait une partie prenante de l'imaginaire de cette histoire-là.
Oui.
Mais en fait, je me dis, si en plus, ils n'ont jamais nommé ça, c'est vraiment quelque chose qu'on rajoute, qui n'était pas présent.
Oui, mais peut-être que ça, le seul fait de l'avoir nommé, ça a juste comme provoqué un imaginaire. C'est juste d'avoir entendu le mot, ouais. Le pouvoir d'un seul mot
ouais, ouais.
a entraîné toute une suite signifiante.
Oui, tout à fait.
Il y a ça, puis il y a le fait de la région, parce que c'est beaucoup... tu as des journalistes de la région qui viennent assez rapidement et qui sont à côté des secouristes qui repêchent le petit garçon dans la rivière, sont en mesure de prendre des photos et de les diffuser.
Ouais.
Des photos du petit garçon qui sort de la rivière sont comme à la une. Donc, il y a ces gens-là de la région, mais c'est pas long que Paris... puis c'est pas pour rien que je le dis, là, que Paris débarque, là, c'est... Paris débarque à la campagne.
Ouais.
Il y a une couverture de presse, un battement médiatique, puis à un moment donné, c'était incessant. Puis là, jusqu'à ce jour, le moindre rebondissement, ça attire... ça les attire comme des mouches. La représentation que des urbains se font du creux de la campagne... c'est des gens taiseux, c'est des gens repliés sur eux-mêmes, puis finalement, c'est pire que ça, il y a comme une espèce de moquerie, une espèce de condescendance qui a fait en sorte que rapidement, les gens de la région qu'on interrogeait se sont refermés,
mm-hmm.
puis qui se sont vite retournés contre la presse.
Mm-hmm.
Hein? C'est tellement des gens de basse classe ou de, tu sais, que ça dérange rien de monter sur des tombes pendant les funérailles du petit garçon, pour essayer de croquer la meilleure photo puis la plus payante
ouais.
de la mère éplorée, tu sais. Il y a comme quelque chose de...
Oui, puis il y a la ligne fine aussi qui est franchie, je l'imagine, à quelques reprises, de s'approcher plus personnellement de certains des protagonistes de l'histoire. Fait qu'il y a des journalistes qui sont prêts de certaines personnes...
Oui.
Et donc, ce qui leur amène des privilèges. Puis, dans l'après-coup, quand on les entend, ben, puis réfléchir, puis il y a des journalistes qui sont très critiques par rapport à ce qui s'est passé.
Ben, ça
a
tellement dérapé,
aussi,
c'est tellement hallucinant à quel point ça a dérapé que on serait,
oui, on serait,
on
à moins,
serait
hein?
drôle de pas être capable de faire son examen de conscience quand on a participé à ça, là. Surtout que ça a fini par une mort d'homme, et si c'est pas deux, là.
Oui, c'est ça. Mais donc, il y a des clans qui se forment. Donc,
oui.
Des journalistes plus proches de certaines personnes qui ont des privilèges avec ces personnes-là, etc.
Oui. Bien, t'as en fait deux clans.
Oui.
Ou deux camps, en fait. Là, au début, là, ce qui arrive, c'est que l'enquête commence, elle est confiée à la gendarmerie. La gendarmerie fait un certain nombre de démarches, des suppléments d'enquête, etc. Et... finit par désigner un suspect, qui est Bernard Laroche.
Ouais.
Tout ça sur...
Assez rapidement. Hein?
Assez rapidement.
Il est inculpé le 5 novembre 1984, donc l'assassinat a lieu le 16 octobre, alors quelques semaines.
C'est ça. En quelques semaines, entre autres autour du témoignage de la sœur de sa femme, la jeune Muriel Boll, qui a juste 15 ans, qui dit « Oui, j'étais dans l'auto avec lui, etc. On est allé à tel endroit. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais un petit garçon que je ne connaissais pas est rentré dans l'auto. Puis après ça, il l'a sorti de l'auto. Puis c'est tout ce que je sais. » Elle a répété ça deux fois aux gendarmes. Et donc, à partir de là et d'analyse graphologique d'une autre Parisienne qui est débarquée à la campagne, on a fait faire des dictées à genre 400 personnes.
Ouais.
Alors, les gens font des dictées. Et on trouve que la graphie de Bernard Laroche est ressemblante à celle du corbeau qui, lui, a envoyé des lettres menaçantes et harcelantes à la famille Villemain.
Au niveau de la technologie ou de l'informatique, je suppose, les avancées scientifiques, c'est une des choses qui sautent aux yeux, hein, tu sais, de comment, à ce moment-là, en 84, on fait faire des dictées, littéralement, on fait écrire au monde. Puis là, t'as plein d'experts qui disent un peu n'importe quoi parce qu'ils s'arrêtent pas de se contredire.
Oui.
Tu sais, versus, c'est vrai, c'est une différence quand même, 35 ans plus tard, des tests d'ADN qui diraient, voici. Tu sais,
oui, c'est ça.
Ça serait beaucoup plus limpide que les tests, que les dictées. Surtout que, pour une raison que j'ignore, ils n'ont pas nécessairement regardé le contenu des missives du corbeau en disant...
Exactement,
tu sais,
oui.
En disant, bon, ben... Parce qu'il y avait des choses très personnelles, on y reviendra peut-être.
Oui.
Là, le corbeau disait « J'ai vu Monique sortir à telle heure quand il harcelait Albert, qui est le père de Jean-Marie, qui est lui-même le père de Grégory. »
Oui, c'est et... ça. Donc, Monique, c'est la femme d'Albert. Albert et Monique...
C'est les grands-parents, en fait.
C'est les grands-parents de Grégory qui sont, et les parents de Jean-Marie, qui est le père de Grégory.
C'est ça.
Donc, les premiers à avoir été harcelés...
Ce sont eux.
C'est Monique et Albert.
Oui. Et Albert, en particulier, là, qui se faisait dire « Tu vas te pendre comme ton père. » Donc, le corbeau savait des secrets de famille. Mais je dis ça parce que... au lieu de, je ne sais pas trop pourquoi, mais de dire, mais regardons attentivement le contenu des lettres, des enregistrements du corbeau, et de là, peut-être, de réduire qui pourrait avoir écrit ces lettres-là, ils ratissent large en disant, ben on va faire écrire la dictée à tout le monde.
Oui.
Puis de comme, dans l'après-coup, on se rend compte qu'il y avait peut-être plusieurs corbeaux, ça a fait comme une espèce de truc pêle-mêle que chaque expert... parce qu'en fait... différentes personnes à différents moments autour de la graphologie a été accusée, puis désaccusée.
Mm-hmm. Dont Bernard Laroche.
Oui.
Alors, Bernard Laroche a une écriture, semble-t-il, qui ressemble à celle du corbeau. Il y a le témoignage de sa petite belle-sœur. Il est mis en examen.
Oui.
Et là, ça part. Est-ce que c'est Bernard Laroche et puis Muriel? Et puis finalement, Muriel...
Donc, ça serait, tu parlais de quand c'est le premier.
Oui. Donc, Muriel, après une fin de semaine passée chez elle, revient sur son témoignage, s'en va dire aux journalistes, encore, les journalistes, là, sont collés sur les gendarmes, sont collés sur chacun des acteurs, ils sont dans leur vie, ils sont dans leur maison. Donc, elle dit aux journalistes, la famille de Muriel Boll convoque les journalistes en bas de chez eux. Elle dit aux journalistes, mais c'est pas vrai, ils m'ont fait peur, les gendarmes m'ont fait peur, c'est pour ça que j'ai dit ça. Ils ont, selon elle, orienté son témoignage.
Ouais.
Mais à ce jour, il y en a qui croient encore que le témoignage initial était le bon.
Mais en fait... est-ce que c'est ta compréhension, toi, qu'il y a eu trois témoignages? Donc, le premier, c'est ma compréhension, le premier où Muriel Boll dit « J'étais dans le corps comme d'habitude, tout est correct, là. Je suis pas impliqué dans rien.
Mm-hmm. »
Là, on lui fait remarquer que son témoignage, comparativement à celui de son oncle?
Mm-hmm.
Bernard Laroche. Donc, il y a quelque chose.
Non, c'est. Oui.
En fait, c'est le mari de sa.
C'est son beau-frère.
Son beau-frère. Oui, c'est son beau-frère. Donc, comparativement à Bernard Laroche, il y a quelque chose où leur témoignage a une discordance. Elle dit que quand elle arrive à la maison, Bernard Laroche est là. Bernard Laroche dit que quand il arrive à la maison,
elle est là.
Muriel est là. On lui pointe la différence et c'est là qu'elle aurait un mouvement d'anxiété, je sais pas trop, mais où là, elle change son témoignage. Fait que devant. Cette erreur-là qu'on lui pointe, c'est là qu'elle dit « OK, ben c'est pas vrai, j'étais...
il est venu me chercher, venu me
chercher, on s'est promené. » Et donc, ça serait son deuxième témoignage à la limite.
Oui, mais c'est ça, puis il y en a un troisième.
Ou là, c'est ce que tu disais. Donc, selon, potentiellement, à cause des pressions de sa famille, elle revient en disant « C'est pas vrai, mon deuxième témoignage était pas vrai, on m'a forcé à le dire. »
C'est ça.
Puis,
c'est ça.
C'est ça. Et là, bon, est-ce qu'on l'a forcé? Mais là, c'est là que c'est compliqué aussi, parce que ça s'est fait un peu tout croche.
Oui. Et puis, c'est qu'à partir de ce moment-là, le monde et l'univers s'abat sur cette pauvre fille.
Oui.
Les journalistes, etc. Alors là, tu as des journalistes qui croient que son premier ou son deuxième témoignage, celui dans lequel elle raconte avoir été dans la voiture avec Bernard Laroche.
Qui est accablant pour Bernard Laroche.
Qui est l'essentiel de la preuve contre Bernard Laroche.
Oui.
Qui croit que c'est la vérité.
Oui.
Et là, on se range, ça c'est les gens qui se rangent dans le clan Villemain, c'est-à-dire du côté des parents du petit Grégory. Et là, tu as d'autres journalistes, deux en particulier, mari et femme,
ouais.
Qui, eux, produisent de la nouvelle pour une dizaine de journaux, qui commencent à tourner autour de l'idée que ce serait donc fantastique et quelle histoire, si c'était la mère qui l'avait fait.
Ouais.
Et donc, ces deux-là,
Donc, c'est Jean-Michel Bézina et sa femme dont j'oublie le nom.
Lui en particulier, qui n'a pas témoigné. Sa femme a témoigné dans le documentaire de Netflix. Lui, non, je ne sais pas. En tout cas, mais ces deux-là ont produit de la nouvelle sous différents noms, dans différents quotidiens.
Ouais.
À la tonne. Hein? Des fois, elle écrivait pour lui, lui écrivait pour elle. Je veux dire, ça produisait de la paperasse.
Sous différents pseudonymes. Ce qu'on ne savait pas à ce moment-là.
C'est ça. C'est ça. Moi, c'est...
Ça, c'est vraiment quelque chose.
C'est ça qui m'a accroché, moi, dans cette histoire-là, au départ. Oui. Tu sais, après, il y a les détails du feuilleton, etc. C'est difficile de résister à la fascination que ça exerce. Mais ce qui m'a accroché au début de cette histoire-là, c'est le fait que c'est raconté par des journalistes et qu'ils racontent, eux, leur participation à l'affaire.
C'est ça.
Donc, ce journaliste-là, produit entre autres pour François et pour en tout cas, d'autres journaux, et sa femme, donc, produisent de la paperasse, commence à se dire que ce serait donc extraordinaire, mais quel revirement de situation si on se rendait compte que finalement, c'était la mère qui l'avait fait. Mon Dieu, ça vendrait donc de la copie. Et se met à rentrer dans la tête du pauvre juge d'instruction qui a 33 ans, qui clairement mal dans sa peau, qui a vraiment l'air d'un pauvre petit gars qui n'a pas le goût d'être là, mais qui est comme tout d'un coup mis sur la sellette et finalement a même... On rapporte qu'il aurait même dit que c'était sa chance, en fait. Que là, c'était sa chance de sortir de l'anonymat, d'écrire des livres, d'être publié, et il a eu raison parce que grâce à ça, il s'est retrouvé chez Pivot.
Oui, puis ça rajoute à ce que je voulais dire tantôt, ça rajoute, c'est un autre angle autour de ce même thème-là, donc d'un vrai cas, tu sais, d'un vrai enfant qui meurt.
Une vraie tragédie pour les parents.
Une vraie tragédie pour les parents, mais aussi de l'espèce d'aura de fiction qui tourne autour de cette histoire parce que, donc le premier juge d'instruction, Jean-Michel Lambert, vraisemblablement, pendant l'enquête, pendant son enquête qui dure 2 ans, écrit sur le rôle d'un juge d'instruction, le rôle de la justice, qu'est-ce que la justice se remémore ses souvenirs, a dans l'idée d'écrire des romans policiers, puisque par la suite, il va en écrire plusieurs, des romans policiers qui en fait remettent en scène des histoires semblables, c'est-à-dire des meurtres avec des avocats véreux, puis des journalistes qui viennent prendre beaucoup de place, puis des ténébreuses femmes qui peut-être sont coupables parce qu'ils ont une méchanceté propre à elles, des sorcières. Puis tout, donc il y a beaucoup de ces personnages-là qui reviennent. Et donc, tu as l'impression d'avoir un premier juge d'instruction comparativement au deuxième là, qui est imbibé de fiction, en fait.
Oui.
Pendant que ça se passe.
Oui.
Puis c'est peut-être pour ça qu'il est perméable à l'idée qui, maintenant, apparaît tout à fait improbable que ce soit la mère qui soit coupable.
C'est pas juste que c'est improbable, c'est qu'il est clair que c'est impossible. Il est clair que ce n'est pas elle. Il y a le papier que tu m'as envoyé là, de la cour...
Oui, la cour d'appel de Dijon qui rend un non-lieu qui l'a...
C'est plus qu'un non-lieu, c'est une exonération.
Oui, complète.
C'est terrible ce qu'on a fait.
C'est quand même
femme,
ça, 9 ans plus tard.
Après qu'elle a été arrêtée et qu'elle a été emprisonnée. Donc, parce que c'est ça, là, t'as les deux camps, tu sais. T'as le camp des journalistes qui moussent, qui jouent dans la tête du juge d'instruction avec l'avocat de Bernard Laroche, qui, par tous les moyens, cherche à faire disculper son client, qui n'est peut-être pas coupable, d'ailleurs.
Ou coupable de seulement une partie. Hein.
C'est ça. Mais pour ce faire, doit trouver, contribue ou travaille à trouver un coupable alternatif. Et ça, c'est la mère de l'enfant.
Ouais.
Et là, tu as l'équipe pro-mère de l'enfant. Par exemple, le photographe de Paris Match, qui, lui, a été dans l'intimité de la famille pendant des
plusieurs
semaines
mois,
et des mois.
Il restait sur place.
Et... Il restait sur place et il a vraiment eu une implication très, très, très grande dans les actes de la famille parce que, entre autres, il a pu lire la déposition incriminante de Muriel Boll. Il l'a enregistrée. Il l'a fait écouter aux parents Villemain.
Ouais.
Il a fait écouter son enregistrement aux parents Villemain. Et suite à ça, Jean-Marie, c'est ça, après l'arrestation de sa femme, parce qu'éventuellement, l'histoire s'est emballée et la mère du petit garçon a été formellement mise en examen. Après qu'elle a été mise en examen, Jean-Marie Villemain, le père du petit garçon, va assassiner Bernard Laroche.
Ouais. Et donc, comme tu dis, tout à fait relié au fait qui maintenant, tu sais, ça apparaît... c'est quand même quelque chose qui ait pu entendre la déposition de Muriel Boll, hein, c'est ça?
Oui.
Tel que lui a amené le journaliste Jean Kerr, qui le dit, hein? Tu sais, quand on oui, vidéo de Netflix, il dit, je lui apporte, je le fais écouter, puis quand je vois sa réaction, je dis, ben non, tu peux pas aller le tuer. Puis,
ouais.
C'est... Fait que donc, oui, les journalistes ont une implication complète, là, c'est pour
en c'est ahurissant. Et puis là, les gens de Paris, là, et de toute la France, là, mais je parle du tout Paris germano-pratin, là. Tu sais, là, les intellectuels et les gens qui connaissent bien ça, la littérature, là, puis qui savent, eux, comme de savoir divin, là, discriminer ce qui est de la vraie littérature, de la fausse, et puis de...
Ouais.
Ces gens-là, ils lisent les mêmes journaux que tout le monde, hein?
Ouais.
Bon, ben les mêmes journaux que tout le monde, là, c'est des journaux où il y a des textes écrits sous pseudonyme qui donnent l'impression qu'il y a plusieurs journalistes derrière une même version de l'histoire,
ouais.
Alors que c'est le même couple qui te fabrique de la fiction, qui non seulement fabrique la fiction, mais essaye d'introduire leur fiction dans l'enquête elle-même. Puis là, tu lis ça, toi, t'es à Paris, dans ton salon, puis finalement, tu te dis, mon Dieu, moi, je connais ça, la littérature, puisque j'ai eu le prix Goncourt il y a quelques mois. Amenez-moi, je veux voir de mes yeux vus.
Ouais.
Et là, ça débarque de ses yeux vus, et là, ça te pond un texte. Je n'ai pas de mots. Qu'à ce jour, encore aujourd'hui, t'as des défenseurs de ce texte-là me sidèrent.
Ouais, tu parles de Marguerite Duras. Là, on a commencé à en parler, puis on a dit avant d'en parler, on va faire un petit détour. Puis là, ouais. Ah, permets-moi.
Oui, je t'écoute.
De faire une autre parenthèse.
Je me crains, pardon.
Une autre parenthèse avant de parler de Marguerite Duras qu'on n'ose pas parler. Parce que c'est difficile. Tu sais. C'est difficile de trouver la vérité à plusieurs égards dans cette affaire-là. La première étant qui est responsable de l'assassinat du jeune Grégory. On ne le sait pas encore pour sûr. Mais après ça, il y a plein de rumeurs, il y a plein d'exagérations, il y a plein de fictions, il y a plein de choses qui, avec les années, ont été tordues puis distorsionnées, qui fait que c'est pas tout à fait ça. Puis il y a différentes façons, même différents registres où on peut se plonger dans l'affaire qui fait voir ce qui s'est passé de d'autres points de vue. Mais où là, je voulais en venir, c'est que moi, je suis d'accord avec toi. Mais, tu sais, j'ai passé le temps que j'ai passé sur l'histoire, mais je crois, selon toute vraisemblance, que les journalistes qui ont donc, ça dit ce que j'en pense, là, qui ont moussé l'idée que ça serait la mère, que ça serait Christine Villemain qui était responsable du meurtre de son fils, je crois qu'ils ne le croyaient pas nécessairement. C'est que c'était pas un vrai travail de dire « on a trouvé des preuves, on l'a remis sérieusement aux policiers, puis regardez, c'est très incriminant. » Je crois qu'il y avait certainement une partie d'eux qui se sont dit « Why get the facts get in the way of a great story?
Exactement.
This is a great story. Exactement. Mouchons ça. » Et qu'il y avait des avocats de La Roche, entre autres, qui étaient dans une logique, puis on peut pas leur reprocher, ou peut-être qu'on peut, on va en parler, mais qui sont dans une logique de vérité d'avocat, c'est-à-dire, pour un avocat, la vérité, c'est pas la vérité qui viendrait surplomber l'ensemble du récit, c'est la vérité qui est la meilleure pour mon client que je défends, et donc, si je mets de la lumière sur quelqu'un d'autre, puis c'est sur cette personne-là qu'on se consacre, puis mon client s'en tire mieux, ben c'est la vérité que je choisis.
Mm-hmm.
Ben, donc, moi, je crois ça, qu'il y a des journalistes qui ont fait un travail qui maintenant on peut dire qu'il était assez dégueulasse,
mm-hmm.
puis qui s'était pas axé sur des faits. Mais est-ce qu'on... Peut-être que... Je pourrais ouvrir la porte au fait qu'on pourrait être détrompé, puis c'est pas ça, mais ça apparaît vraiment selon toute probabilité. Parce que, je dis ça parce que c'est une question qu'on peut se poser, tu sais, comment on a pu en arriver à penser que c'était la mère? C'est inconcevable, ça a à tous les niveaux, ça n'a aucun sens.
Oui. Non. Non. Ça, non.
Et que ça dure et perdure et continue.
C'est d'une immense cruauté, en plus. C'est que c'est pas juste pourquoi c'est si choquant puis que ça m'emporte comme ça. C'est à quel point, tu sais, c'est pas juste ne laissez pas les faits vous embarrasser s'il peut s'agir d'écrire une bonne histoire. C'est ne laissez pas des êtres humains, leur dignité, leur douleur, vous embarrasser s'il peut s'agir de vendre de la copie et de se mettre en valeur. C'est l'effet pervers de la caméra braquée sur toi. C'est-à-dire le désir des uns de se présenter sur leur meilleur jour, le désir des autres d'écrire un roman, de devenir un grand écrivain, d'aller serrer la main de Marguerite Duras qui débarque sur la montagne, le désir de passer chez Bernard Pivot, le désir d'être la vraie police, parce qu'il y a eu un truc entre les gendarmes, à un moment donné, les gendarmes...
Absolument!
À cause de cette polarisation-là. Et de certaines gaffes qu'ils ont faites, ça, c'est ce qu'ils racontent pas quand ils sont du côté... peut-être Bernard Laroche l'a fait finalement.
Ouais.
Ils racontent pas les dessous de l'enquête des gendarmes. Les gendarmes sont pas blancs de tout soupçon. Ils étaient confrontés à la même meute de journalistes débarqués de Paris. Hein? Des gens très cultivés, là, des gens qui connaissent ça, les choses. En tout cas, donc, ils se font face à la même meute de journalistes, ça leur joue dans la tête de la même façon. Donc, d'un côté, tu as les gendarmes, l'enquête des gendarmes qui pointent vers Bernard Laroche, et de l'autre côté, ils sont, après qu'ils soient dessaisis par le juge d'instruction Lambert de l'enquête, et qu'on reparte à zéro parce qu'on soupçonne la mère... On confie l'enquête à la police judiciaire, débarque l'inspecteur, un tel, là.
Corazi.
Oui.
Qui, lui, embarque dans l'idée que ça serait la mère. Et là, c'est deux autres camps, certainement, qui s'affrontent et qui collaborent pas et qui, un, dénigrent l'autre jusqu'à ce jour. Hein.
Fait que là, t'as des querelles entre la gendarmerie et la police judiciaire. T'as le juge Lambert qui est pas de tête et qui est pogné au milieu de tout ça. T'as des querelles entre les journalistes pro-Villemain et les journalistes pro-Laroche. La pauvre petite Muriel Boll qui, elle, le monde s'est effondré sur elle, elle ne s'en est jamais remise.
Oui, puis retourner à l'école, hein. Elle a lâché. Pourquoi ça m'a marqué, mais tu sais, t'as l'impression pour elle...
La vie s'est arrêtée là.
Oui. Puis, tu sais, on peut... Je sais qu'il y en a qui lui reprochent plein de choses parce qu'on pense que c'est une des personnes qui est encore vivante, qui est au centre de l'affaire. Puis il y en a quand même plusieurs, mais c'est une de celles qui peut-être a un bout de vérité qu'elle garde pour elle 35 ans plus tard. Mais nonobstant... C'est important, mais nonobstant ce fait-là, t'as vraiment l'impression pour cette personne-là, qui est quand même une figure tragique, là, son monde change complètement cette journée-là. Là.
Oui.
Ben, en fait, ces jours-là, là, à partir de ces témoignages. Pis...
Oui. Oui, le monde.
Et tu sais, quand. Lors du procès de. Je sais que lors du procès de Jean-Marie Villemain, qui a donc tué Bernard Laroche, il lui dit à un moment donné, tu sais. À Muriel Boll, il dit « Tu vas être obligé de regarder tes enfants dans les yeux un jour, puis dis-nous la vérité, puis qu'est-ce qui s'est passé?
Oui. »
Elle reste dans son histoire qu'on l'a forcé à dire ça, puis on l'a forcé à inculper son beau-frère. Pis...
Ce qui n'est pas du tout impossible. Tu sais, là, des faux témoignages, là, ça existe.
Oui, oui, ben oui.
Des pratiques policières, cow-boy... qui joue dans la tête des gens, ça existe.
Ouais.
T'as une enfant de 15 ans qui est jamais là-dedans.
Ouais.
Mais
bon,
sans avocat, sans témoin.
Selon toute probabilité, à ce que je comprends, il y a des fortes chances, en fait, c'est mon interprétation, que son deuxième témoignage où elle inculpe son beau-frère est relativement vrai. Tu sais, il y a l'idée là, que 30 ans plus tard, je sais pas si t'as vu, il y a 30 ans plus tard, il y a un couple qui était sur le chemin, qui a jamais voulu parler parce que c'était un truc d'adultère, puis ils voulaient pas que ça sache qu'ils étaient ensemble.
Oui, la fermière. Oui.
Qui ont dit, qui ont vu...
une auto verte.
Oui, puis avec un type qui ressemblait à Laroche. Et Muriel,
sauf que leur premier témoignage à eux,
ouais.
incluait pas une petite fille rousse dans l'auto. C'est la deuxième fois, quelques années plus tard, ouais, hein? Que là, d'un coup, apparaît une petite fille rousse puis un gars corpulent.
Ouais, c'est ça. Écoute...
C'est parce qu'aussi, il faut se souvenir. C'est tellement...
Mais c'est Maître Wazer qui dit ça, puis ça, il faut lui accorder. Il dit, tu sais, le lendemain d'un crime, on sait que ce que les gens rapportent, c'est tout croche.
Oui, c'est ça.
Là, on parle de 30 ans plus tard.
C'est ça. Et qu'il y a eu la rumeur, tu as été exposé à toute la presse. Il y a tous les livres, il y a tout le journaux de... d'Antenne 2, puis les rumeurs, puis les...
Fait que le monde se trompe sur tous les dates, oui, c'est sûr. Alors, on l'a évoqué à quelques reprises sans jamais en parler, rentrons dans le vif du sujet. Marguerite Duras, le 17 juillet 1985, j'ai fait mes devoirs.
Oui!
Je suis fier, et parce que je l'ai fait, je veux le dire. Oui. Pour que ça soit perdu, c'est pas juste en 85.
On te félicite.
C'est le 17 juillet.
Parfait, parfait. C'est noté.
Elle publie un texte sublime, forcément sublime. Et donc, en fait, c'est une boutade de dire, parce que je l'écris, je vais avoir là un savant, là, puis de montrer mes petites connaissances. Mais pour vrai, ça a une importance parce que c'est le 17 juillet 85, donc c'est moins d'un an. Et pour moi, ça fait une grosse différence parce que c'est un artiste, un écrivain qui est interpellé par un fait divers, par un drame... et qui crée une œuvre ou une construction littéraire, whatever, c'est le propre de l'affaire, j'ai rien contre, mais dans ce cas-là, ce qui est quand même, c'est peu de temps après, et parce qu'on n'a pas trouvé le coupable, et parce que la mère va être incarcérée ou vient d'être incarcérée, c'est autour de...
Oui.
Alors ça contribue à l'affaire.
Elle a contribué à monter la tête du petit juge Lambert.
Oui. Donc, elle publie un texte où, dans un journal, qui n'est pas un journal littéraire...
Non, qui est Libération.
Fait qu'elle, elle a débarqué à l'épanche au volant. Elle n'a pas parlé à personne de la famille, là.
Non.
Elle a vu la maison.
Elle a demandé à ce qu'on l'amène à la maison.
C'est ça. Et devant la maison, elle a eu une révélation. Et là, elle écrit un texte où elle... Ouais, je sais pas comment on peut décrire ce texte-là, mais elle s'est laissée imprégner du réel de la maison, et donc elle pense que la mère est coupable, que ça s'est passé dans la maison. Et donc elle élabore autour de ça, en fait, en disant et en disant pas que c'est un truc romancé, que c'est de la fiction, mais elle essaie de réfléchir à qu'est-ce qui pourrait faire que c'est un infanticide, en fait, qu'est-ce qui pourrait faire que la mère aurait pu commettre ce meurtre-là de son enfant, et tout en construisant quelque chose qui l'excuse en partie.
Qui la rend sublime, parce que c'est comme au nom de toutes les femmes.
Oui, c'est ça.
C'est un texte qui est féministe, c'est un texte dans lequel elle fantasme un ennui, une oppression, des viols.
Un mari violent qui donne des baffes parce que les steaks sont pas cuits.
C'est fantasmé à partir de son sentiment viscéral, du cri qui lui est sorti du fond des entrailles.
Ouais.
Oui, oui, le crime a eu lieu. Quand elle s'est rendue à la maison des parents Villemain, là où le petit enfant s'est fait enlever.
Mm.
Alors, elle écrit ça. Elle est accompagnée. Le journaliste de Libération qui était sur place et qui était comme... qui fait aussi son mea culpa dans le
documentaire. C'est-tu Denis Robert? Non.
C'est possible. C'est un de celui qui semble... un de ceux qui semble le plus pudique, qui défonçait pas les portes, qui suivait derrière, puis qui fait son auto-analyse par la suite, là, l'analyse... Bon. La direction de Libération lui a demandé de recevoir Marguerite Duras, qui, elle, écrivait des chroniques... T'sais, parce que c'est un métier important d'écrire des chroniques, surtout quand t'es un gon... Tu connais ça, toi, la littérature. Je m'excuse de le dire comme ça, mais moi, ça me renvoie à l'affaire Matineff, dont on a parlé dans un ancien podcast. Ce milieu-là, tous ces prix-là que ces gens-là se donnent entre eux...
Que s'auto-congratulent, là.
La condescendance qu'ils ont envers ceux qui ne sont pas de leur milieu, toutes les certitudes, tout ça, ça donne des choses éhontées comme celle-là, ça donne une valorisation de viol d'enfants, ça donne le droit de débarquer à la maison de gens qui viennent de perdre leur enfant, puis de fantasmer n'importe quoi au nom de la littérature, ouais, dont toi, tu t'estimes...
une digne représentante.
C'est ça, et ce qui te permet de juger de qui écrit vraiment et de qui n'écrit pas, ça a quelque chose, là, quand... aujourd'hui, là, quand tu regardes ça aujourd'hui, ça a quelque chose d'assez obscène. Hein?
Oui.
Et qu'elle en a rajouté, c'est-à-dire qu'elle s'est défendue, elle a maintenu son affaire, la madame, et à ce jour, on continue à écrire au sujet de son texte sublime, forcément sublime,
ouais,
de Libération. On continue à écrire, c'est comme sur sa valeur littéraire et ainsi de suite. Je voulais juste mentionner un texte sur lequel je suis tombée d'un psychanalyste qui en fait l'analyse. Marguerite Obscure Donadieu Duras, sublime, forcément sublime. Le psychanalyste s'appelle Christian Jouvenot. C'est une analyse de la projection, en fait, totale projection et de la déliaison dans laquelle cette femme-là, qui est allée faire intrusion dans la vie de gens réels, dans laquelle cette femme-là s'est retrouvée à cause de son histoire personnelle, dont tout le monde peut être au courant compte tenu du fait que c'est une grande dame de la littérature. Fait que, tu sais, sa vie est plus intéressante que la vie des autres, et puis elle peut s'approprier la vie de tout un chacun. Je m'excuse, je pense que ça s'entend, là. Ça me choque terriblement, terriblement, en fait.
Oui. Oui, mais moi, je suis d'accord avec toi. T'sais, quand j'ai découvert cette affaire, quand j'ai découvert son article, j'étais plongé dans la question, en fait, mais comment ils ont pu penser si longtemps que la mère était coupable? T'sais, d'où ça sort, cette idée-là? Puis on n'a pas rendu compte correctement pour le moment, parce que on parle un peu à bâton rompu de l'affaire, mais quand on regarde plus chronologiquement tout ce qui s'est passé avec le corbeau, avec tout ça, avec aussi ce qu'on voit se déployer après le meurtre de Grégory, d'un enfant, la force de ce couple-là qui reste soudé, qui reste ensemble, qui a d'autres enfants, que c'est assez beau de les voir, en fait, dans cette, oui, tragédie-là. Reste...
Oui, absolument.
Tu sais, les projections que fait Marguerite Duras apparaissent d'autant plus loufoques que c'est pas collé à rien de, oui, ce qui se passe, mais qu'en même temps, ça a un impact sur sa vraie vie à elle, qui est encore dans la douleur parce qu'elle est incarcérée, puis qu'on la croit coupable, puis que tout le monde se met à la croire coupable pendant des années et des années et des années. Tu sais, c'est pas non plus, oui, juste, dans une enquête, il faut considérer tout le monde, puis il y a une petite fenêtre de 2-3 semaines où on se pose des questions. Entre parenthèses, il y a une journaliste qui dit « Même après 93, quand le non-lieu est rendu, puis elle est blanchie de tout, une journaliste qui était proche, je pense que c'est Laurence Lacour, en fait, qui est très bien par ailleurs, mais oui, qui raconte qu'elle est allée la visiter et que quand elle la revoit, donc en 97, je pense, elle ne peut pas s'empêcher de regarder la façon dont elle interagit avec ses enfants.
Oui.
Elle dit ça dans le podcast. Oui. Parce que elle a été habitée pendant tant d'années avec l'idée que peut-être qu'elle avait commis ce geste-là.
Oui.
Puis elle dit ça, elle dit, on peut pas s'enlever ça de la tête si facilement. Mais bref, c'est dans ce contexte-là, tu sais, nous, on est dans l'après-coup, on est 35 ans plus tard, c'est vrai que tu vois ce texte-là dans Libération qui apparaît complètement déconnecté. Mm-hmm. Et qui a un impact sur la vie, dont notamment de Christine Villemain. Mais là, en disant ça, on se retrouve, toi et moi en tout cas, mais toi aussi, je crois bien avec ce que tu as dit, dans la position, en fait, qui n'est pas la nôtre naturellement, d'être un peu pro-censure. Et, tu sais, de dire, ben, la liberté d'expression a ses limites, ou... Et habituellement, moi, je suis plutôt pro-liberté d'expression. Fait que là, hier, ça me prenait la tête pareil de dire, mais... Tu sais, elle a le droit d'écrire ce texte-là, t'as le droit d'écrire, le droit de s'exprimer. La seule chose dans son apologie à Marguerite Duras que je trouvais qu'il y avait une certaine force, c'est quand elle a dit à un moment donné qu'elle ne croyait pas que ce qu'elle avait écrit avait eu de l'impact. dans la vraie vie, sur le monde. Et parce que ça, je peux le concevoir, que tu es une littérateuse, que tu écris, tu es une littérate, une grande
dame. C'est une grande écrivaine. Prix Goncourt, 84, je pense. Tu sais, c'est quoi?
Là, oui, non, mais puis indépendamment de ça, tu sais, qu'elle dans son personnage, qu'elle écrit, qu'elle fantasque, c'est son métier, elle est reconnue pour ça, qu'on l'aime ou non. Puis qu'à un moment donné, tu te dis, ben, tu sais, ce que je fais, ce que j'écris, je peux pas me censurer en pensant qu'il y a des gens qui pourraient prendre au pied de la lettre ce que je dis ou dans différents registres, parce que sinon t'écris plus. Je veux dire, de la même façon qu'elle écrirait un texte où il y a des meurtres, puis qu'à un moment donné, il y a un meurtre qui est commis, puis la personne dit « ce qu'elle a écrit m'a inspiré », on pourrait pas dire « ben, il faut plus qu'elle écrive », puis... Puis ça venait d'une conversation qu'on a eue il n'y a pas si longtemps dans un podcast de dire, mais des fois, ben, par rapport à Jordan Peterson, on dit, tu sais, c'est pas tellement ce qu'il dit contre lequel on s'oppose, mais ce qu'on pense que les gens, comment les gens vont le recevoir, puis comment ils vont être influencés. Fait qu'on dit, ah, Jordan Peterson, ce qu'il dit, ça va, mais ça influence plein de jeunes qui sont crédules, puis qui vont se mettre à être pas fins à cause de ce qu'il a dit, fait qu'ils devraient pas le dire. Et là, c'est un peu comme si on disait, ah ben, tu sais, Marguerite Duras, elle va se mettre à influencer un juge qui est impressionné par la littérature, puis des avocats qui cherchent juste des appuis là où ils en trouvent.
En même temps, le point qui me fait réagir, c'est pas est-ce que cette femme-là a le droit ou pas le droit de dire ce qu'elle veut dire. C'est le même point qui me fait réagir par rapport à Jordan Peterson, par exemple, entre autres. C'est pas tant « ont-ils le droit de parler? » C'est « qu'est-ce qui trouve audience dans la presse intellectuelle et dans le monde de l'édition, dans les milieux intellectuels ?» qui sont les milieux qui décident de ce qui vaut la peine d'être diffusé et de ce qui ne vaut rien. C'est toujours un petit peu la même chose. C'est-à-dire, Jordan Peterson, il dit ce qu'il dit, la presse décrète qu'il est d'extrême droite, que c'est un monstre, que ceci, que cela, et il est reçu avec une brique puis un fanal partout où il va, dans ce qu'il appelle de legacy press, la presse traditionnelle, la presse d'héritage.
Ouais.
Marguerite Duras, en 1984-1985, peu importe ce qu'elle dit, elle est reçue tapis rouge, avec les honneurs, photo à l'appui, etc. C'est pas tant ont-ils le droit de parler ou pas. Ma question à moi, c'est pourquoi une parole, on est tellement aveuglé par l'aura qu'on a construit autour d'une personne qu'on est incapable de voir quand c'est indécent.
Oui, oui. C'est ça. Là-dessus, je te rejoins. C'est ça mon enjeu.
C'est pas à De Vrester, elle peut écrire tant qu'elle veut. L'enjeu, c'est qu'est-ce que c'est que cette construction-là qui permet à des milieux d'aller s'imposer dans la vie des gens, de se l'approprier, de la dévorer et de la recracher à leur propre sauce, comme si c'était d'eux, t'sais? Et qu'on acclame et qu'on applaudit et qu'on publie et qu'on republie et qu'on...
Ça me dérange beaucoup. Oui, c'est ça. Mais je suis d'accord. Mais c'était ma conclusion aussi. C'est pas tant... Moi, je pense qu'elle n'aurait pas dû... ou qu'il faut censurer, ou qu'il faut... parce qu'on ne peut pas savoir d'avance. C'est vraiment exactement comme l'aura qui est créée autour du personnage, qui fait une acceptation, a priori, comme étant profond et légitime.
Parce que c'est elle.
Oui, c'est ça. Et bien, il y a quelques personnes qui sont objectées. Entre autres, il y avait quelqu'un qui avait écrit pas longtemps après, par rapport à son texte... c'est quoi déjà? C'était-tu nul, forcément nul? Ou ridicule, forcément ridicule? Ou quelque chose comme ça. Il y a du monde qui sont rendus compte de...
Ben, il y a une polémique. Là. Il y a même juste une entrée toute seule pour Sublime, forcément Sublime, dans Wikipédia. Là.
Oui, c'est ça. Oui, il y a une polémique. Mais quand même, ça a eu un impact. Et oui.
Ben puis en fait, c'est dire aussi, c'est toute cette question-là, tu sais, la ville et la campagne, les germano-pratins et les ouvriers, les... T'sais, tu comprends, ceux qui sont dans le « in » milieu, puis ceux qui sont des ploucs, en fait, parce que c'est ça. Ouais. La ville débarque dans leur campagne, s'impose partout comme s'ils étaient chez eux, s'approprie tout, cogne chez les gens, demande des entrevues en live, tout ça pour nourrir la machine, nourrir l'imaginaire des futurs écrivains ou des écrivains qui vont faire un futur texte, tu sais, et... ce que tu entends continuellement, c'est le mépris. Il y a un des documentaires que j'ai mis en lien là, parle de ça, tu sais, comment rapidement les gens de la région se sont fermés aux journalistes. C'est encore vrai, parce que, tu sais, on parle de comment cette affaire-là a fait scandale dans ce temps-là. En même temps, c'est un révélateur de la logique d'appropriation de la presse en général et des intellectuels aussi dans le sillage, parce que l'information dont disposent les intellectuels, ils la prennent dans la presse.
Oui, oui, tout à fait. Oui, puis on l'a dit tantôt, mais ça vaut la peine de le répéter, ce qu'on constate aussi qui n'était pas évident dans ce temps-là, c'est comment peu de journalistes sont impliqués quand même. Il y en a beaucoup, mais il n'y en a pas tant. Puis il y en a qui écrivent à par l'organe de différents organes de presse et publient partout.
Oui.
Fait que c'est plus orienté qu'on pense.
Absolument. Oui.
Des fois, on parle de pluralité des voix, puis tout ça, mais finalement, tu as trois journalistes qui mènent l'essentiel du débat. Puis selon ce qu'ils pensent puis ce qu'ils décident, ça vient colorer beaucoup l'histoire.
Puis quand tu as. C'est quelque chose que j'avais remarqué une année où je travaillais dans une boîte, on lisait tous les journaux.
Oui.
Montréalais, ben, tous les journaux montréalais, c'est trois, là, dans les francophones, hein? Les trois journaux montréalais qui se font la guerre, tu sais, toutes les histoires qui comptaient, là, qui étaient des histoires, soi-disant, d'information, là, venaient toutes de l'Agence France-Presse, de la presse canadienne, de Reuters, et c'était les mêmes d'un journal à l'autre. La différence, c'était l'emballage, c'est-à-dire les autres articles qu'il y avait autour. Mais l'information, elle est la même. C'est que l'information, dans ce cas-ci, c'était les mêmes journalistes qui envoyaient ça à 10 journaux différents. On peut penser que l'Agence France-Presse ou Reuters ou tout ça, c'est ce genre de journalistes-là qui se sont fédérés, puis qui se sont incorporés, puis tu sais?
Oui, oui. Puis on le voit maintenant... Tu sais, les médias sociaux, Twitter, entre autres, nous permettent parfois de voir ça d'une façon plus prenante, mais il y a des... Il y a une compagnie qui s'appelle Sinclair Broadcast Group qui a de la syndication, fait que dans tous les États des États-Unis, ils ont des postes de télévision avec des lecteurs de nouvelles pour chaque endroit.
Mm-hmm.
Donc, c'est des gens qui sont là puis qui racontent les nouvelles, mais parfois, il y a des gens qui vont mettre toutes les ouvertures de nouvelles de 45 États, des gens qui sont reliés à Sinclair Broadcast Group, puis ils commencent tous en lisant le même script.
Oui.
Puis ils mettent un à côté de l'autre.
Oui, oui. Oui, j'ai vu ça.
Quand tu vois ça.
Oui, c'est effrayant.
Parce que quand tu le sais pas, tu dis, ah, bon, ben, voici, tu sais, c'est la nouvelle du jour avec une voix grave. Puis souvent, ils sont deux, puis ils se renvoient la balle. Puis oui, n'est-ce pas? Oui,
oui, c'est des grands gens de l'information.
Là, tu te rends compte, ils disent toutes la même chose.
C'est ça.
Mais puis c'était comme ça dans le temps, mais. Mais tu voulais rajouter quelque chose?
Non.
Mais parce que j'allais dire aussi, ça change un peu la perspective, mais il y a l'idée d'un fait divers comme ça. Puis c'est dur de dire fait divers quand c'est une tragédie, puis quand on pense qu'il y a un enfant qui a été assassiné, mais fait divers dans le sens littéral où c'est une personne, puis c'est un endroit dans le temps spécifique. Mais de comment ce qui s'est passé là est plus grand, reflète le fonctionnement qu'on voit encore se déployer aujourd'hui, mais notamment autour des clans et du clivage.
Oui.
Tu sais, il y a des avocats pour la Roche, puis il y a des avocats pour la mer, il y a des journalistes qui sont divisés en camps, il y a la ville contre cette campagne-là, si on veut. Il y a la famille Villemain contre la famille Jacob.
Il y a la gendarmerie contre la police judiciaire.
Il y a les avocats de la famille Villemain, de Jean-Marie et Christine, qu'eux, ils ont choisi, je pense, sans trop y penser, mais qui sont à droite versus les avocats de Muriel Bollet qui sont à gauche et qui ne s'aiment pas à cause de ça.
Oui.
Mais je le dis parce que c'est fort, ce mouvement-là, puis moi, je pense qu'on le voit encore aujourd'hui, pendant la pandémie, c'est fort, ce mouvement-là, d'être dans un camp puis de choisir son camp et de, pour toutes sortes de raisons, de résumer les choses comme étant dichotomiques. Puis donc, t'es pour ou contre? Puis il faut que tu choisisses. T'es pour ou t'es contre? Puis si t'es contre, ben donc t'es pas pour. C'est clair.
Oui.
T'as ton camp.
Oui.
Et dans ce cas-là, moi, je pense, très pragmatiquement, le fait de devoir choisir son camp, donc c'est un premier biais, et de penser que c'est une personne pendant longtemps qui est responsable, a fait complètement foirer l'affaire. Parce qu'en fait, probablement qu'il y avait plusieurs personnes et que c'était pas un camp, c'était plein de gens mêlés, en fait, dans ce village-là.
Il y a aussi l'idée que... OK, le téléphone est arrivé ou a été déployé en 1981, puis à partir de là, il s'est mis à y avoir un petit peu partout. Le premier usage du téléphone dans la région, c'est le trollage.
Oui, oui, oui.
Tout le monde recevait des appels anonymes.
Ben oui.
C'était, tu sais... C'est le premier usage qu'on fait, comme c'est le premier usage qu'on fait d'Internet, que d'aller troller ton voisin, puis le gars que t'aimes pas, puis personne t'a vu, puis tu sais.
Ouais.
Fait qu'il y a ça. Le fait que, tout de suite, parce que tu reçois des lettres d'un corbeau depuis 3 ans, des lettres et des coups de téléphone d'abord, puis ensuite des lettres, donc, que t'es harcelé par quelqu'un, mais qu'on n'en fait pas nécessairement beaucoup de cas au début à cause des appels que tout le monde reçoit avec le téléphone, que spontanément, et que ces lettres-là signalent que la personne qui les écrit, qui te harcèle, connaît des choses intimes de l'histoire de ta famille et aussi de ta vie quotidienne, la vie quotidienne de ta famille, tu présumes que ça s'est passé dans la famille.
Mmh.
Et ça, de ce que je vois, à ce jour, on n'en est pas sorti.
Ouais.
Hein? Normalement, dans une enquête judiciaire, tout le monde est potentiellement coupable et on procède par élimination.
Mmh.
Si on avait procédé par élimination, rapidement, Christine Villemain aurait été exculpée. Peut-être aussi Bernard Laroche. C'est pas. Mais là, comme on a présumé que c'était dans la famille, on a cherché dans la famille, on s'est retrouvé dans une vision en tunnel qui nous a empêchés de voir d'autres possibilités et on est encore pris avec soit c'est Christine, soit c'est Bernard.
Oui. Ben oui, tout à fait. Puis on le voit quand on regarde ça avec le recul de comment... des présupposés comme ça enferment la pensée dans un camp ou dans l'autre. Puis quand tu prends ce camp-là, ben tu vois plus les subtilités ou tu vois plus certaines, certaines subtilités, dont des membres de la famille Villemain qui sont peut-être en lien avec la famille Jacob, qui sont en lien avec Bernard Laroche. Mm-hmm. Ça devient juste... Ben c'est ça, chacun a son clan d'une façon très, très prononcée. Puis il faut que tu choisisses, sinon t'es comme exclu de l'affaire.
T'es pro moi ou t'es contre moi?
Ouais.
T'es avec moi ou t'es avec l'autre?
C'est fort, ce mouvement-là. Puis c'est pas propre à 1984. On le voit aujourd'hui. À un moment donné, les gens essayent d'élaborer un doute ou une pensée, puis ils vont vite se faire dire « Non, t'es anti-vaccin? »
Oui, c'est ça.
Ou t'es pro un tel?
Oui, c'est ça.
Oups. Puis là, ça vient freiner un peu. Ben il y a donc... les journalistes qui ont leur position ou leur vérité, qui est souvent celle qui vend des copies, on peut le dire. T'as les avocats qui ont leur idéologie ou leur vérité, pour employer ce terme-là, qui est dans le sens de protéger leurs clients. T'as les familles qui ont la vérité au sens de protéger les secrets de famille, en fait, on n'a pas beaucoup parlé, mais il y a des secrets de famille partout, mm-hmm. des secrets d'adultère, puis de suicide, qui vient faire en sorte aussi que, nonobstant les journalistes qui ont leur part à jouer, mais que tout le monde se referme parce qu'ils sont coupables de différentes choses dans le déploiement de certains secrets ou de certains drames dont ils veulent pas, qu'on parle. Ce qui fait que tout le monde se referme à un moment donné face à cet assassinat-là, ce sacrifice dans un sens. T'as les gendarmes et la police qui essayent de montrer que l'autre est incompétent et qu'ils sont plus compétents. T'as tout ce monde. T'as Marguerite Duras qui a sa vérité littéraire puis ses élaborations qui s'est imprégnée d'une situation puis qui fait de l'association autour de ça.
Puis ça fait des querelles littéraires.
Ce qui fait des querelles littéraires aussi. Mais t'as aussi, dans tout ce bruit-là, t'as quand même un personnage dont on n'a pas parlé, mais qui vient... apporter une certaine noblesse à des trucs assez loufoques, parfois quand même, en termes de querelles, de clochers, puis de trucs... Je veux dire, il y a des trucs quand même. Je pense qu'il y a des journalistes qu'on a dit qui sont venus voler la photo du petit Grégory sur sa tombe pour pouvoir la monnayer en échange d'une entrevue avec les parents. Tu sais, il y a des choses qui sont passées qui sont épouvantables. Mais donc, tu as une personne, notamment, qui vient amener un peu de noblesse dans cette affaire-là, puis un peu de sérieux, c'est le deuxième juge d'instruction, Maurice Simon, qui lui arrive en voulant, là, selon toute vraisemblance, là, trouver une vérité, prendre le temps d'écouter les gens, et par rapport au ce qui est très touchant, par rapport aux parents endeuillés, de reconnaître leur douleur et les écouter, en fait, pendant des heures et des heures.
Oui. Le juge Simon qui allait régulièrement se recueillir auprès de la tombe, devant la tombe du petit Grégory.
Oui, bien, tu vois, j'ai oublié de le dire tantôt, parce que quand tu disais, tu sais, en tout début de podcast, tu disais, ah, le petit Grégory a été oublié souvent dans l'affaire. Lui, il l'a pas oublié.
Exactement.
Et même à la limite, c'était trop, parce que ça, il est devenu, de ce qu'on comprend, obsédé par ce cas-là, puis par le petit Grégory à qui il écrivait des poèmes, c'est devenu vraiment comme une figure.
Tu sais, t'as l'impression, en termes lacaniens, je le dis, pas de gaieté de cœur, là.
Tu cites pas les lacaniens de gaieté de cœur. Ça, c'est drôle.
Mais à ce stade-ci, ça m'apparaît incontournable. C'est la dimension de la métaphore paternelle. Ouais. C'est que tu as l'impression qu'avant tout ça, c'est le Far West, c'est la jungle, tu as des gens qui débarquent comme ça, puis qui arrachent des bouts de vie à des vraies personnes, qui, elles, sont laissées à elles-mêmes à régler leurs conflits familiaux entre elles, parce que la justice répond pas, parce que les institutions répondent pas. Comme disait Laurence Lecour, il n'y avait pas de garde-fous autour d'eux.
Ouais.
Ça finit en tragédie parce que Jean-Marie Villemain est incapable de supporter qu'on accuse sa femme, et avec raison. Je veux dire, c'est le bout du bout, là.
Oui, c'est comme...
C'est le bout du bout, là. Et que... qui s'en va voir son cousin, ami d'enfance, Bernard Laroche. Tout ça, c'est des vrais gens qui ont vécu des vraies vies, qui se sont vraiment côtoyés. C'est ça aussi que les Parisiens ont vu pour en faire du roman, mais n'ont pas respecté. Donc, s'en va voir Bernard Laroche et le tue. Ça, t'as l'impression que c'est la jungle, c'est l'imaginaire, c'est... la basse cour, et puis c'est le plus fort, puis on ramasse ce qu'on peut, puis tout est permis. Parce que le juge d'instruction, Lambert, n'est pas capable de tenir son cas correctement, et lui-même envahi par toutes les propositions de photos, de toutes les idées qu'on peut lui lancer, etc., il n'arrive pas à se tenir.
Ouais.
Et là arrive un juge d'instruction, il est donc dessaisi de l'affaire, le juge Lambert, arrive un juge d'instruction d'expérience.
Y a-tu dessaisi ou, selon lui, il a terminé? Ouais, je sais, oui, c'est pas très important. Mais je pense qu'il y a un petit quiproquo là-dessus, là. Je pense que sa famille, au juge Lambert, dira qu'il n'est pas dessaisi, qu'il a remis ce qu'il avait à remettre, puis qu'on décide de demander de recontinuer, puis qu'on le donne à quelqu'un d'autre, là. Ben, c'est peut-être de la sémantique, là.
C'est possible. En tout cas, celui de quelqu'un d'autre qui a saisi la balle au bon, c'est un juge en fin de carrière, quelqu'un qui a une carrière respectable,
ouais,
quelqu'un qui sait ce qu'il fait et qui décide de reprendre tout à zéro avec un jugement critique très sévère à l'endroit de son prédécesseur. Il reprend tout à zéro, met tous les moyens dont il peut disposer au service de l'élucidation de cette affaire.
Ouais.
Et tient des carnets personnels intime sur ses réflexions là-dessus, entend tout le monde, à commencer par les parents, mais tout le monde, pendant des heures et des heures et des heures, dans le respect et dans la dignité. Et lui se rattache à plus grand que lui. C'est un monsieur qui est croyant,
ouais,
de ce qu'on comprend. C'est un monsieur qui est fortement ébranlé exprime et éprouve un sentiment de proximité envers le petit garçon que tout le monde a oublié pendant qu'il s'arrachait la chemise, puis voulait vendre la copie, puis voulait avoir accès, puis machin, être une star, puis être quelqu'un, puis un littéraire, puis blébli, puis moi, en
ouais,
fait.
Ouais, ouais.
Resitue la raison de tout ça à sa juste place.
Ouais.
Et ça change tout.
Et reconnaît, moi, ça m'a ému, parce que c'est les parents qui le disent, que pour la première fois, des années plus tard, donc, parce que le juge, ce juge d'instruction-là, il arrive en mars 87, fait que c'est quand même quelques années plus tard, mais pour la première fois, quand ils sont interviewés par lui, sentent que leur douleur est reconnue. Et ça vient avec ce que tu disais, là, du respect de ce qui s'est passé. Et donc, c'est pas des courtes entrevues de... des questions coupées, le temps d'élaborer, le temps de préciser, oui, ce qui s'est passé, la reconnaissance de la souffrance et tout.
Oui. Et que unanimement, tout le monde respecte. C'est comme s'il vient, il arrive dans une position et avec une posture,
ouais,
qui fait en sorte qu'il peut remettre de l'ordre dans l'affaire parce qu'on lui reconnaît.
Ouais.
Cette fonction-là, ça calme les esprits.
Mais donc, entre autres, parce qu'il y a comme la double fonction d'écouter tout le monde dans le respect, mais de faire taire tout le monde aussi, c'est-à-dire de pas faire d'entrevue quotidienne aux journalistes, de mener son enquête en retrait, si on veut, de faire son enquête comme il faut. Fait que c'est le double mouvement d'écouter les gens, mais de lui, de ne pas se mettre de l'avant. La tragédie de l'affaire, il faut bien dire, c'est que il commet une erreur. Ce que je comprends, c'est qu'il y a quelques années plus tard, en 89 ou 90, il parle à un journaliste, il en dit trop, il en dit plus que ce qu'il voulait
en
dire.
En voix off.
Mais il est enregistré sans le savoir, et donc le journaliste révèle ce qu'il a dit. Et là, c'est comme s'il commettait la même erreur que le juge Lambert avait commis, c'est-à-dire là, il révèle des choses qu'il n'aurait pas dû révéler.
Ce qu'il révèle, c'est qu'il ne croit pas que la mère est coupable.
Ouais.
C'est qu'elle est exclue dans son esprit.
C'est ça. Mais là, les avocats...
Il le révèle candidement en voix off,
ouais,
c'est-à-dire en off, en confidence au journal. C'est incroyable. Quel genre de profession que c'est ça?
Mais donc... Le journaliste le publie, les avocats de Bernard Laroche, parce qu'il parle aussi de Bernard Laroche, poursuivent, disent qu'il a commis une faute. Lui qui est très droit, dit « je suis foutu », il sait qu'il a fait une erreur, qu'il a... bon, tout ça. Et il en souffre physiquement dans son corps, et pas longtemps après, il ferait un infractus, et il perd la mémoire. C'est quand même... C'est une histoire comme ça, que quelqu'un l'écrirait, on se dirait... tu sais, les rebondissements, c'est un peu exagéré.
Oui.
Mais donc, il perd la mémoire.
Ça s'invente pas, comme
et il oublie...
Tout!
Tout! Mais il y a certains jours de sa vie qui se rappellent, mais par rapport à cette histoire-là, par laquelle il était très investi pendant des années, quand même, il oublie tout. Et tellement que... tu sais, il y a des gens qui lui posent des questions parfois, puis qui essayent de le ramener à ça, puis...
Il sait même pas c'est qui le petit garçon, non. Donc finalement, Laurence Lecourt, qui est devenue sa conjointe, ça aussi, c'est un retour d'histoire assez particulier, écrit un livre, donc Laurence Lecourt, qui était journaliste et qui, en fait, a peut-être, à cause de son livre sur l'affaire, suscité la réaction, provoqué la réaction d'introspection des médias français de ce temps-là et de cette histoire-là, parce qu'elle n'est plus journaliste, elle a laissé ce métier-là, et elle écrit un livre très critique de son implication et de l'implication de tous ceux qui étaient avec elle dans cette région-là au moment des faits.
Livre qu'elle écrit... Ouais, vas-y.
Oui, vas-y.
J'allais dire livre qu'elle écrit accompagnée du juge qui, maintenant, se souvient plus de l'histoire.
C'est ça.
À côté de lui, en fait. Et oui, sinon, c'est...
Qui est ce petit garçon dont tu me parles tout le temps?
Oui, c'est ça. Elle qui est rentrée en contact, à ce qu'on comprend, avec le juge en lui disant à un moment donné, écoutez, je lance une perche comme ça. Je pense pas qu'elle s'attendait nécessairement à ce qu'il lui réponde puis à ce qu'il... Ce qui, bah, c'est une relation. Je n'avais pas vraiment de moyen de penser ça, mais je pense que la façon dont elle l'interpelle, c'est en disant, ben voici qui je suis, voici les questions que je me pose, puis comment toute cette affaire-là remet mon métier en question. Puis sa candeur l'interpelle, puis là, il commence à entretenir un échange. Puis... Il faut aussi souligner, parce que c'est donc une figure tragique, on peut dire noble, mais tragique, étant donné, oui, tu sais, son destin. De... Mais il faut aussi parler, tant qu'à faire, du premier juge d'instruction, Jean-Michel Lambert, qui, malgré ses défauts précis par rapport à comment il a tenu cette affaire-là, ou il n'a pas su tenir cette affaire-là, on pourrait dire, puis les erreurs qu'il a commises, puis comment il a été emporté, tout ça, a vécu très difficilement les répercussions de cette affaire-là, et qui est un autre, quand même, un autre rebondissement tragique, c'est quand le second juge d'instruction, Maurice Simon, va mourir, je pense, en 1991 ou 12, peu de temps après, je crois. Hein, j'oublie quand est-ce. Mais il y a un moment donné, en 2017, donc des années plus tard, où les carnets personnels à laquelle tu faisais allusion du juge Simon sont connus, sont révélés au public, et là-dedans, il critique donc le juge Lambert, et celui-ci qui en peut plus de se faire et refaire critiquer périodiquement cette affaire-là, s'enlève la vie dans son bureau en 2017. Donc c'est comme un autre mort, si on veut, relié à l'affaire.
Ça fait des histoires hitchcockiennes aussi. Hein? Ça fait... C'est des journalistes qui débarquent, je disais... à la campagne, et qui se mettent à dépeindre la région de la Vologne, les Vosges, sous le jour d'un site de malédiction,
ouais.
Un corbeau, un enfant assassiné, des secrets de village, une maison de pendue, tu sais,
ouais.
Une rivière sombre, des histoires de famille,
ouais.
Des rivalités, etc. Mais là, t'as l'enlèvement d'un petit enfant, son décès, t'as le meurtre d'un des accusés dont on n'est pas certain qu'il est coupable, mais qu'on peut pas exonérer. T'as l'accusation de la mère. Après, t'as la mort du juge d'instruction qui a repris l'affaire. Une crise cardiaque qui lui enlève toute la mémoire et puis éventuellement son décès. T'as le premier juge d'instruction qui a essayé de devenir un littéraire,
mm-hmm.
qui a essayé de devenir un germano-pratin.
Oui, qui a écrit plusieurs romans policiers.
Qui finit par se suicider quand l'affaire est relancée en 2017. C'est quelque chose qui te donne l'impression d'une malédiction.
Oui, puis ben, peut-être qu'on pourra... Peut-être que ce que je vais dire, c'est une conclusion, mais t'as ce qui s'est passé autour des années 84, 85, 86, avec tout ce qu'on a décrit, les clans, les camps qui se forment, les rivalités, puis les enjeux moyens de qui gagne, puis qui est populaire, puis qui se fait une notoriété, puis qui gagne de l'argent, parce que l'argent, on n'a pas parlé, mais évidemment, ça se profile partout.
T'as après oui, des ça... photos, ça se vend.
Hein? Oui, puis des exclusivités. T'as après ça les documentaires qui sont bâtis, qui viennent, comme on disait tantôt, nécessairement, tu rajouter une couche de fiction à l'affaire, les corbeaux qui se promènent, puis tout ça. Et là, 2020, 2021 arrive, puis à cause de la technologie, arrive une nouvelle façon de traiter l'affaire. Mm-hmm. Donc, des gens qui reprennent des gens, donc, non pas des journalistes, ou c'est le propre de notre époque, hein, non pas des journalistes, mais des gens qui sont...
Comme toi et moi.
Oui, qui sont des gens qui disent, voici, on crée une chaîne.
On s'enregistre
et on explore cette affaire, mm-hmm. mais qui amène un nouvel éclairage, dont entre autres, je sais, celui qui s'appelle, dont la domination c'est Radio YouTube, qui va entre autres aller sur les lieux ou par Google Maps, montrer les différents emplacements.
Oui.
Et qui amène un tout autre éclairage à l'affaire, pareil, parce oui. que, tu sais, c'est là que la fiction... la fiction, c'est aussi entendre parler d'un cas et au fil des années, d'avoir certains éléments distorsionnés, puis de fantasmer en partie ce que t'entends. Mm-hmm. Fait que t'entends des trucs, tu dis, ah oui, le fils habite pas loin de chez ses parents. Bon, parfait. Puis là, ça peut évoquer différentes choses, puis là, il se rajoute différents éléments. Mais là, lui, il va sur place, puis il dit non, mais voici, on la voit, la maison des parents, la maison du fils, qui collée, et comment la colère du père est entendue par la colère du fils et vécue par les deux femmes. Fait que là, il apporte un tout autre éclairage, pas à pas, ce qui est le propre de notre époque, là aussi, de faire des longs podcasts qui durent des heures et des heures oui. et des heures et oui. des heures, qui décortiquent tous les menus aspects.
Oui.
Qui est donc une nouvelle façon, en fait, d'explorer cette histoire-là.
Ce qui nous permet d'avoir accès aussi à ce que le fameux corbeau, le harceleur de la famille Villemain, a écrit, mm-hmm. ce qu'il a laissé comme trace,
qu'est-ce qu'il a
des
dit?
Enregistrements, puis qu'on peut, pour soi-même, essayer d'analyser d'une manière qui ne nous a pas été offerte par les graphologues et la gendarmerie
ouais.
Du coin. Pendant 3 ans, à partir du moment où le téléphone est arrivé dans la région, c'est-à-dire à partir de 1981, où le téléphone a été déployé. Il faut faire attention avec ça.